Au sommaire, ce mois-ci, les sorties du mois de mai, une discussion endiablée autour des protagonistes dans le manga et une recommandation feel good, c'est parti.
Uzumaki Naruto, tattema yo! Kaizoku o ni naru otoko da!
Dare ni mo iwanai yo. Nani?
Watashi wa L desu.
Et bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce 13e numéro d'Ex Libris. Et pour bien commencer ce mois de mai 2023, Apo est là.
Salut.
Et Néo est là également.
Hello, hello.
Et ce mois-ci, on est tous les trois. Et ça, ça fait plaisir de se retrouver encore un mois de plus pour parler de nos petites recommandations manga, en fait, mensuelles. Je vous propose qu'on démarre directement par nos petits achats. Qu'est-ce que vous comptez prendre ce mois-ci? J'aimerais donner la parole à mon petit Néo, tiens.
Bah, nickel. Comme allez. Ça, t'as parlé d'achats manga et on commence par moi qui ne vais pas acheter de manga ce mois-ci.
Et allez bah, comme tous les mois, en fait.
J'ai essayé d'être curieux le mois dernier et j'ai regardé quelques titres. Là, ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose. Du coup, je pense que je vais peut-être partir sur Evol, dont on parlait le mois dernier, que j'ai pas mis dans mes achats.
J'ai peut-être un truc, mais je t'en ai déjà parlé, qui pourrait te plaire ce mois-ci.
Ok, on verra ça. Mais du coup, je vais peut-être me prendre Evol, on l'a vu avec Apo en magasin il y a quelques jours, et j'avoue que ça m'a bien tenté. Donc je pense que je prendrai Evol ce mois-ci. En comics, quelques sorties, pas grand-chose que je vais prendre, mais il y a surtout la nouvelle vague du Urban Nomad. Pour ceux qui connaissent pas Urban Nomad, c'est des comics à petit prix, à petit format et en souple, qui se rapprochent, si on veut, de l'esprit du manga. Donc, ils pourraient vous intéresser, notamment au niveau du prix. Il y a pas mal de très bons titres qui sortent dedans. Moi, ce mois-ci, par exemple, je vais prendre le All-Star Superman. C'est ce qui va inspirer le futur film Superman de James Gunn,
okay.
Superman Legacy. Ils ont la très bonne idée de le sortir, du coup, dans ce format Urban Nomad. Donc, au prix de 7,90€, honnêtement.
Bah, c'est pas loin d'un manga en vrai maintenant. Hein.
Ouais, bah c'est ça.
Oh, même c'est moins cher que beaucoup de mangas. Hein.
Ouais. Donc je pense que je vais foncer dessus. Je trouve que c'est une collection qui marche très bien, mais moins sur certains dessinateurs. Notamment, ils ont sorti du Alex Ross, c'est un dessinateur peintre qui fait des planches incroyables mais que tu as envie de voir en très grand. Mm-hmm. Là, c'est du Frank Whiteley qui avait fait des titres que moi j'ai déjà lus et qui. Bah, je sais qu'au coup d'œil, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Donc perdre son dessin, ça me dérange pas plus que ça. Donc je vais partir là-dessus, il y a plein d'autres, je vais pas faire toute la vague, mais c'est plutôt cool. Moi je vais prendre la suite de Stillwater. Stillwater, c'est une série de Chip Darsky, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de lui. Pérez au dessin.
Chico Pérez. Chico Pérez.
Il vient de gagner en plus. Hein.
Non, Stillwater, c'est l'histoire d'un journaliste qui va se faire virer de son taf. Et qui va apprendre qu'il a reçu un héritage d'une tante éloignée, dont il avait oublié l'existence même. Il doit se rendre dans un petit village pour aller voir le village de Stillwater, pour aller récupérer ça. Et en fait, il va arriver dans un village où personne ne meurt. La mort n'existe pas. Et on va voir que du coup, le comportement des gens est très influencé par ça. Ils font des dingueries, parce que ouais, ils ne meurent pas. La manière de condamner ces personnes, du coup, bah, c'est pas la mort, genre, c'est enterrer ces gens pendant X années, par exemple.
Oui, non, c'est surnaturel, c'est pas juste, ils ont de la chance, c'est genre juste, non, ils sont immortels.
Faut le surnaturel, mais que dans ce village. Dès que tu passes ce village, on comprend pas. Ça...
Et c'est que les natifs de ce village, ou dès que tu rentres dans le village,
dès que tu rentres dans le village, tu deviens immortel. Donc c'est assez intéressant. C'est pas une série qui a très bonne presse.
Ah ouais ?
Ouais, les gens sont pas très fans. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an entre le tome 1 et le tome 2, c'est le tome 2 qui sort.
C'est ce que j'allais dire, parce que moi je me rappelle, ça fait ultra longtemps qu'il y avait du bruit pour la sortie du tome 1, c'était vachement attendu, j'avais l'impression.
Ouais, du coup ça n'a pas plu. Je pense que c'était un an et demi. Delcourt avait annoncé qu'il ne ferait pas la suite, parce que c'était pas très bien vendu et les critiques n'étaient pas très bonnes.
Putain.
La surprise étant que ce mois-ci, finalement, le tome 2 sort. Alors Starsky a repris des lettres de noblesse avec sa reprise de Batman et de Daredevil chez les deux gros Big Two. Donc potentiellement, j'imagine que ça pousse Delcourt à éditer la suite. Tant mieux. Moi, j'aime plutôt bien le début de la série, donc je vais foncer dessus. Et puis, toujours chez Delcourt, le dernier titre que j'ai acheté, j'ai été très sage ce mois-ci, je pense, c'est Télépathe de J.M. Straczynski, qui est un de mes auteurs préférés sur Spider-Man, qui là sort Télépathe, le titre très évocateur. Je ne me suis pas beaucoup plus penché dessus que simplement le fait qu'en fait, d'un coup, il y a un dixième de la population qui va recevoir des pouvoirs télépathiques.
Ok.
Et donc, comment est-ce que le monde évolue en sachant que n'importe qui peut entendre tes pensées? Je trouve, dans un monde aujourd'hui où on est filmé H24 ou écouté H24, se poser la question de une personne sur 10 peut entendre ce que je dis, je dois faire gaffe à ce que je dis, ça peut être très intéressant, donc je vais foncer là-dessus, moi, de mon côté.
Ok, bah, en tout cas, si vous avez écouté le dernier Focus Club, vous savez que cette question ne s'applique pas à nous, quand c'est bien lâché. Bref, un autre dans qui j'aimerais pas être dans la tête, je sais pas comment dire cette phrase.
J'aimerais pas être dans la peau, contrairement à moi. Allez, go.
Allez, continuons. Apo, qu'est-ce qu'il a prévu ce mois-ci?
Bah, c'est pas un gros mois, en vrai, il y a beaucoup de suites de séries. Donc, des séries que je parle régulièrement, donc je vais vite passer. Les Carrés de la Poticaire, tome 11, bah, une série que j'adore. La Perfect de City Hunter, que je continue de faire. La suite des 4 volumes de Karakuri Circus, qui nous sortent tous les 2 mois chez Meian, ça régale, mais ça fait un énorme tour dans le budget. Des Dark, tome 5. Sido, tome 22. Pour continuer sur, du coup, sur Takahashi, l'auteur de Sido, il y a une nouvelle, la dernière série, une des dernières séries qui n'avait pas été encore publiée, éditée en France. Donc, Jumbo Max. Je me suis pas renseigné sur quoi ça parle, mais...
C'est sur le chat de Squeezie, je pense. Pour ceux qui ont la ref.
Mais vu que je suis un peu le full set de Takahashi, vu que j'adore son trait, et en général, ses titres font large le café, donc je vais sûrement me la prendre. Et du coup, il y a Insomniac, je vais peut-être en parler un peu, il y a le tome 9 de Insomniac qui parle, et c'est un énorme coup de cœur du mois dernier, ou peut-être il y a 2 mois, que j'ai une série que j'ai découvert. Et c'est juste une des meilleures séries romances que j'ai lues récemment. Donc globalement, ça parle de quoi? Bah, en fait, il y a, putain, j'ai pas le nom des protagonistes, mais c'est pas grave, il y a 2 élèves, donc un garçon et une fille, qui sont tous les 2 insomniaques pour des raisons personnelles, donc des problèmes liés à leur rapport avec le monde. Et en gros, ils vont se rapprocher via cette pathologie en commun, et le fait, du coup, qu'ils vont reprendre le club d'astronomie, puisque c'est là-bas qu'ils dormaient en secret. Et du coup, ça va parler d'astronomie, de romance, de mal-être lié avec le fait de mal dormir et de devoir occuper ses nuits, entre guillemets, et d'être fatigué, du coup, la journée. Du coup, de ne pas pouvoir vivre la journée et de ne pas pouvoir vivre la nuit, vu qu'on ne peut rien faire la nuit. Et c'est hyper touchant, le dessin est incroyable. Enfin, incroyable. Il fait vraiment ultra bien le café. Et c'était vraiment un énorme coup de cœur. Et là, j'attends le tome 9 avec une impatience. J'ai dévoré les 8 premiers tomes, je pense, en 2 jours. Oui. Et donc là, je suis un peu en manque. Donc,
est-ce que tu les as dévorés en pleine nuit, du coup?
Bah, je lis souvent le soir, donc ouais, en vrai. Voilà. Ouais, non, j'attends ça. Et c'est,
bah,
c'est,
et du coup, rien à voir avec ceux qui font Spider-Man sur PS4.
J'ai pas la ref.
Ouais, mais moi, j'ai des cliquets à lancer pour ce blanc.
Attends, mais quoi?
C'est le studio Insomniac. Bon, bah voilà, on va être à jour.
Ouais, c'est le titre que j'attends le plus, que tout le reste, c'est des suites. Et on va dire, je suis pas. Enfin, j'ai hâte de découvrir la suite, mais il n'y a pas. Là, c'est vraiment le gros morceau, quoi. Okay. Je l'achète, je pense, il est lu dans la soirée, quoi.
Ah ouais, mais je pense que ça peut m'intéresser, moi.
Ouais,
l'astronomie, tout ça.
En vrai, mais surtout qu'en plus, je trouve que. Enfin, je pense qu'on en parlera parce que c'est une thématique que j'aimerais parler mal, mais je trouve que c'est une romance. C'est une des premières fois, enfin, une des rares fois où vraiment la romance, je l'ai trouvée, mais genre crédible. Genre, je l'ai vue, j'ai retrouvé des feelings que moi j'ai eus dans les relations que j'ai eues. Et que d'habitude, plus les romances, il y a ce côté un peu. Comment dire? Je trouve que c'est maltraité. Enfin. Quoi? Pourquoi vous me regardez avec ces yeux-là?
Non, rien du tout.
Non, mais il y a vraiment, je trouve que c'est. En tout cas, moi, ça m'a parlé, je pense, ça évoque. Enfin, je m'y retrouve beaucoup là-dedans. Donc, je conseille.
Ok.
Fortement.
Non, mais en vrai, premier degré, moi, ça peut. Je pense que ça peut me plaire, ça.
Et voilà, pour mes sorties.
Du coup, c'était quoi le titre dont tu voulais me parler? Moi, je vais déjà.
Ah oui, merde, putain, oui, bah, j'ai oublié. Je t'en ai parlé en plus tout à l'heure. C'est qu'en gros, il y a Kurokawa qui fait. Des sorties de tomes à 3€ et ils rééditent, du coup, enfin ils sortent Mob Psycho 100, du coup, qui est Luan, l'auteur donc du One Punch Man, une série que t'aimes beaucoup. Et c'est vraiment dans la même vibe, même si bon, il n'y a plus le côté super-héros, même si bon, vu que les combats sont dantesques, il y a un peu quand même ce côté.
Il y a toujours le côté super-pouvoir et tout.
Donc. Voilà, c'est juste qu'il n'y a plus le côté super-héros avec des vilains et tout, c'est plus. C'est différent quoi. Mais du coup, je te conseille, parce que moi j'ai vu que l'animé, mais l'animé est incroyable. Et du coup, je pense que ça pourrait être bien. Surtout que là, 3€, du coup, ça coûte pas grand chose d'essayer de prendre les premiers tomes. Je crois qu'ils sortaient 3 premiers tomes direct. Donc à voir.
Donc ce mois-ci, là.
Ouais, c'est au mois de mai.
J'ai pas la date.
Les offres à
3€.
Moi, je les ai, les offres à 3€. Ça sort le 11.
Ouais, parce qu'il y a d'autres séries, mais bon, les autres séries m'intéressent. C'est quoi, c'est Blood
Je peux en parler comme ça. Si t'as fini,
vas-y,
je prends la suite. Donc en effet, moi, elle m'intéressait, cette petite édition à 3€. Alors je vous ai mis ce qui sortait. Il y a Mob Psycho 100, du coup. Il y a Blood Lad. Il y a Blue Flag qui moi m'intéresse du coup.
Je l'ai acheté il y a 2 mois.
Pour ceux qui
ne
connaissent pas, par exemple, imaginons. Alors pas moi évidemment, parce que je connais.
De quoi Blue Flag, ouais. Tu connais?
Non, tu connais si tu avais écouté notre invité.
Tu étais là le mois dernier, tu sais. Caroline nous en a parlé, c'était sa reco du mois.
Ouais, je m'en rappelle pas.
Ouais. Bah super. Bah écoute, tu iras reposer une écoute sur.
Ouais, allez, ça, ouais, on va faire ça.
Et donc, moi, je vais me prendre Blue Flag. En gros, c'est une romance, typiquement.
Ouais, mais qui parle beaucoup, je crois, du... Comment dire de...
Du rapport...
Même, de, qui pose plein de questions sur... sur le, l'après, comment dire, sur le futur.
L'orientation.
Dire, le thème, c'était ah futur, oui, elle avait choisi ça,
d'accord,
pour
okay,
ça.
C'est bon, j'ai...
Sur l'après-école, après même sur l'orientation, etc. Apparemment, ça parle de beaucoup de thématiques.
Et sinon, il y a un autre shoujo qui s'appelle Chocolat et Vanilla, qui est, que je ne vais pas prendre, mais qui est aussi un classique. Donc, les lecteurs de shoujo, vous pourrez y aller. Ça sort le 11 mai. Sinon, en revenant un petit peu en arrière, moi, le 4 mai, chez Kiun, j'ai le tome 2 du Mouvement de la Terre.
Et du coup, tu avais aimé, je t'ai pas demandé.
Ben justement, ouais. J'avais pris le 1 et j'ai adoré. C'est trop bien. En gros, ben, pour pitcher rapidement, on est en pleine Renaissance. Et Renaissance typiquement italienne, comme on peut voir dans des séries de l'époque, etc. Et on a un garçon qui est ultra intelligent et qui était orphelin, qui a été recueilli par un genre de prêtre qui enseigne la théologie, quoi. Et il est ultra intelligent, du coup il se plie un peu à ce monde-là et il se dit bah en fait si je veux être famous et gagner plein d'argent, faut que je m'oriente dans des études de théologie. Donc il apprend comme un barge sans vraiment y croire vraiment. Enfin, on sent vraiment qu'il est érudit le gamin et qu'il se dit ok ça c'est le chemin pour y aller donc je vais le faire et comme ça ma vie elle sera tranquille et j'aurai plus jamais de problème de thunes quoi. Sauf qu'à un moment donné, eh ben son père adoptif du coup, et vu que c'est un prêtre, eh ben il fait l'aumône à des gens. Et il y a un mec qui sort de prison parce qu'il était hérétique et il s'est repenti. Et du coup, pour vérifier qu'il s'est réellement repenti, il doit vivre chez le prêtre et le prêtre doit dire s'il est vraiment repenti ou pas. Et en gros, son crime, c'était l'héliocentrisme. Donc de dire que ce n'était pas la Terre au centre de tout, c'était le Soleil. Et en fait, tu te rends compte qu'il ne s'est pas repenti du tout et qu'en gros, il cherchait juste à donner ses recherches à quelqu'un. Et du coup, il va embrigader le gamin dedans. Et le gamin, vu qu'il est ultra intelligent, il voit des calculs et des maths et tout, il adore ça. Et il se dit, putain, mais c'est logique, c'est trop bien. Et du coup, il commence à se passionner pour la physique, pour ça et tout. Et du coup, bah, il va reprendre un peu les travaux du mec. Ça, c'est le tome 1. Et la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai été ultra surpris par la fin. Je ne veux pas trop en dire vraiment, mais c'est très bizarre parce que... Je ne sais pas comment dire sans spoiler, mais...
La Terre est plate.
Non, je ne sais pas vraiment comment dire sans spoiler, mais en gros, le récit du manga, ce n'est pas l'histoire du jeune homme, comme on pourrait le croire quand tu suis un shonen classique. C'est vraiment la passation de savoir.
Ok.
Voilà. Donc, j'ai eu une vibe un peu comme dans Planète, où on te présente plein de petits éléments et tu ne sais pas lequel tu vas suivre au bout. Quoi.
Okay.
Donc, pour l'instant, c'était basé sur ce jeune homme-là. Dans le tome 2, je ne pense pas, en vrai, vu la fin du tome 1. Mais on verra. Et donc j'ai adoré, donc je vais prendre le tome 2 bien évidemment, j'ai trop trop hâte. Sinon, j'ai... ça va
J'ai une crampe, mais continue, je t'en prie.
Okay. Il me faisait des têtes pas possibles. Sinon, bah, pareil, quelques suites, donc je vais aller vite aussi, le 5 mai, Naruto Hokage tome 11 qui sort, j'ai trop hâte, là on est
mais
en plein...
Mais ça sort tous les mois, il n'y a pas un podcast en fait sans qu'il me place à Naruto Hokage.
Mois,
si.
Non, là il charbonne, il y a eu une pause de 2 mois et là il charbonne, mais je suis trop content parce que là on arrive... Il y a l'arrivée de Tsunade et tout, donc ça commence à être stylé. J'ai une autre suite, c'est Sands of Life, tome 6, pareil, j'en ai parlé le mois dernier. J'ai Amour Placebo, tome 2, Akane Torikai, qui sera le dernier tome. Et j'ai quelques petites nouveautés que j'aimerais bien tester. Alors, le premier, c'est une adaptation de Webtoon, donc je suis assez curieux, ce sera peut-être mon premier. Ça sort aux éditions Koyohan le 4 mai, et ça s'appelle COP, qui veut dire en fait Court of Puppet. Donc ça a l'air assez stylé, c'est de la SF. C'est en gros, j'ai le pitch vite fait. Il y a un inspecteur de police qui est ultra talentueux, mais qui a des méthodes un peu cheloues, controversées, et qui a été mis à pied. Et sa seule façon de retrouver son poste, c'est de former un COP. Et un COP, en fait, c'est le nom qu'on donne aux puppets. En gros, c'est des androïdes. Un peu à la Detroit Become Human. Je ne sais pas si vous
avez... Je n'ai pas encore fait.
Bon, en gros, il y a des flics androïdes qui, du coup, sont traités comme de la merde. Parce que c'est des androïdes, quoi. Et du coup, ils se retrouvent mêlés à une enquête sur l'exploitation, justement, d'une nouvelle source d'énergie qui s'appellerait de l'aphorinum, je l'ai noté. Et du coup, voilà, il va y avoir des petits débats très SF sur la place des androïdes dans ce monde-là, la place de l'énergie dans un monde qui peut être...
C'est un petit peu Black Mirror, quoi.
Est-ce qu'on n'est pas un peu dans Black Mirror ?
Mais enfin !
Non, ouais, ça a l'air sympathique.
Non, ouais, ça a l'air chouette. Je sais pas ce que ça vaut niveau dessin et tout. Je pense que je tenterai. Et puis au pire, si j'aime pas.
Oui, de toute façon, tu regardes si en librairie,
ça dégage.
Si ça te tape dans l'œil, quoi.
Et sinon, un deuxième truc qui, ça me tente bien pour le coup, ça sort, le tome 1 sort chez Nueve Graphics. Je crois que c'est un vieux manga, donc j'ai jamais entendu parler, qui s'appelle Capeta, qui est un manga sur qui est un shonen en gros de karting. Et le gamin va, il a pas d'oseille mais il est passionné de Formule 1 et en gros il va se, pour rentrer dans la ligue de karting, il faut qu'il ait un kart. Et du coup, il va se construire un kart et apparemment, il va destroyer tout le monde et monter les échelons. C'est un peu un shonen de sport sur,
sur le kart. Pour le coup, la Formule 1, c'est vraiment un shonen en plus. Ouais. La manière même dont, c'est, dont il faut monter les grades.
Donc pourquoi c'est pas cool. Un petit Charles Leclerc japonais, je prends. On va voir ce que ça donne. Pareil, je sais pas si je me suis même pas renseigné si c'était une série longue ou quoi, mais apparemment, c'est assez connu. Hein. J'ai pas l'auteur, mais c'est assez connu. Moi, je connaissais pas du tout, mais ça me donne plutôt envie. Bah, on est plutôt sage en vrai. Ouais, Néo.
Moi, tu m'as fait penser parce que tu m'as donné des nouvelles d'une lecture que tu as fait le mois dernier. Ouais. Ce mois-ci, sur le tome 2 de Mighty Mothers, je vous avais dit que je prendrais le tome 1. Ça a été fait. Vous avez vu que je prendrais pas le tome 2. Ah, j'ai vraiment pas aimé. Hein.
Ah ouais.
Ouais, ouais, vraiment pas aimé. Je me suis ennuyé au possible. Les dessins, c'est pas du tout mon truc. On a trois personnages féminins à peu près du même âge et qui sont caractérisés de la même manière physiquement. Donc, c'est incompréhensible, genre vraiment c'est impossible de comprendre. Quand elles se mettent en tenue de combattante machin, tu comprends. Dès qu'elles sont en civil, c'est plus compréhensible, genre vraiment j'étais perdu. Donc ça, et un dernier titre dont je voulais vous parler, j'ai oublié de le faire, tu parlais d'une sortie qui est un peu étrange. Il y a une sortie pour moi qui est un ovni en comics mais qui peut plaire à du monde, et je sais pas si je vais pas foncer dessus. Ça s'appelle Stray Dogs, Stray Dog même, je crois que c'est au singulier. En fait, ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils vont sortir 6 ou 7 covers différentes, ce qui se fait pas trop en France, plus aux États-Unis, et à chaque fois, ça parodie une affiche de film. Okay. Donc, on a un Stray Dog avec le Silence des Agneaux, par exemple, avec le papillon et tout de l'affiche. On en a avec l'Exorciste, on en a avec. Et à chaque fois, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Avec It aussi, donc ça. Mm-hmm. Et sauf qu'ils ont mis un petit S en mode sit, vu que c'est un chien. C'est marrant. Mais ouais, c'est que des affiches parodiques comme ça. C'est hyper marrant. Et juste l'histoire, c'est un chien qui se perd, je crois que c'est une chienne, qui se perd, qui va être recueilli, et juste son but, ça va être de retrouver son premier propriétaire. On ne sait pas plus que ça.
Mais les covers, les covers, elles seront genre... en fait, tu iras en librairie, tu auras les 7 covers disponibles.
Ouais, normalement, c'est ça. Tu vas avoir la cover classique de base. T'en as une qui reprend Stranger Things. Vraiment. Et t'as la cover classique, et après, tu peux prendre une des covers, covers variantes. Ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. À chaque fois, ils mettent un artiste connu sur chaque fois une cover. Et là, pour un titre dont j'avais jamais entendu parler, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça en France ? Mais en même temps, c'est, du coup, ça m'a tapé dans l'œil. Et je me dis, vu que j'achète pas grand-chose ce mois-ci, pourquoi
c'est marrant,
pas,
en vrai.
Ouais, ça a l'air, ouais, ça a l'air très mimi, en tout cas.
Ok, bah super. Moi, ça, c'est le genre de délire qui peut me faire rire. Ouais, ça, c'est bon. Vrai. Donc, ça me plaît bien. Bah, on est plutôt sage en vrai, ce mois-ci. Ouais. Bon, après, il y a aussi moins de, enfin, moins de sorties, tout est relatif, parce qu'il y en a quand même une tétrachée. Oui.
Puis là, on parle des sorties, mais bon, à côté, il y a toujours des achats imprévus. Dérapages. Ouais. Mais oui, non, oui, c'est un mois. Moi, il y a peu de choses qui me fait vibrer, on va dire.
Ouais, moi, ça va me permettre d'avancer dans des, dans des séries qui sont un peu plus...
Ouais, que t'as déjà commencé, qui sont finies déjà. Ouais.
Moi, j'aimerais bien rattraper mon retard ce mois-ci, parce que là, ça y est, j'ai enfin fini d'acheter les 20th Century Boys. Finally, j'ai bientôt fini la lecture. C'est une putain de tuerie, sa mère. Et du coup, là, le prochain, je finis Eden, et après, j'attaque les Gunnum. Et du coup, j'avoue que j'ai quand même pas mal de retard, donc c'est pas plus mal. Des petits mois où il n'y a pas grand-chose, ça fait plaisir. Ouais. Bien, je vous propose donc, maintenant que ça c'est fait, de passer à la petite chronique mensuelle. Et ce mois-ci, bah, c'est toi, mon bon Apo, qui a proposé.
Après, une chronique, c'est un terme un peu fort. C'est, je voulais juste un peu lancer une question.
Tu dis que c'est une merde aussi.
C'est une petite bousise.
Petite bousise.
Non, en fait, juste. Du coup, en fait, je voulais poser une question parce que moi, c'est souvent quand je lis, forcément, on se pose des questions. Et. Du coup, je voulais un peu ouvrir un débat, une discussion autour de différents thèmes. Et du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de qu'est-ce qui, selon nous, fait un bon protagoniste. Et par là, je vais entendre que c'est purement subjectif. C'est qu'est-ce qui, en fait, quels sont les protagonistes, et d'essayer de voir quelles sont les caractéristiques de ces protagonistes qui font qu'on le considère comme bon, intéressant et qui porte l'œuvre, entre guillemets. Enfin, on parle vraiment de protagonistes, parce qu'il y a plein de protagonistes très bons.
Et oui.
Mais là, on va vraiment parler de ceux qui nous ont touchés, de ceux
marqués,
qui vraiment.
Qui restent.
En
quoi.
Mode, quand tu vas conseiller l'œuvre à ton pote, tu vas dire non, mais le protagoniste, Genre, il est incroyable.
C'est vrai qu'il y a vraiment des mangas où tu les recos pour l'histoire.
Ouais.
Et d'autres, ça arrive en effet que tu les recos en te disant, ouais, mais parce que le héros, il tue, il est trop stylé.
Ouais, et puis surtout que il y a. De toute façon, on va commencer à en parler, mais aussi en fonction du genre, des thématiques abordées, on ne va pas forcément attendre des mêmes choses du protagoniste. Mmh. Le développement ne va pas du tout être le même. Et comme tu le dis, en fait, par exemple, bah, Timon, pour prendre un exemple, moi, je ne parlerai pas, par exemple, de beaucoup de shonen,
ouais.
Comme par exemple, genre Luffy, que j'adore One Piece.
Luffy qui est grotesque quand il se bat, etc.
Je ne conseillerais jamais One Piece en me disant non mais pour Luffy,
ouais, je
dirais non mais One Piece par contre son univers, toutes les trames, toutes les couches, les strates de narration, d'histoire, c'est fou, la pléthore comment on dit les personnages secondaires.
Personnages.
Ouais. Enfin, avec un peu moins de dédain, s'il te plaît.
Je sais pas, il y a sûrement un terme, mais je l'ai
pas. Non, mais je l'ai pas. Mais bref, il y a plein de choses qui font qu'on peut conseiller cette œuvre, mais personnellement, ça sera jamais en mettant en avant Luffy, par exemple. Alors pareil pour Naruto.
Natsu.
Pareil pour.
Il est plus là, c'est plus obligé.
Pareil pour Natsu. Et à l'inverse, si on prend d'autres shonen, par exemple, moi je sais que Jujutsu Kaisen, je vais le déconseiller aussi à cause de son personnage principal. Je ne pourrais
plus. Ça aussi.
Donc, je ne me rappelle pas de son prénom.
Donc on peut parler du bon comme du mauvais.
Ah oui, non, le but c'est aussi de parler de ça. Mais après, comme on dit là, disclaimer, c'est pas parce qu'on va taper sur un personnage que vous adorez, c'est juste qu'on a tous des sensibilités différentes à ce niveau-là.
Après, il y a des auditeurs qui ont des goûts de merde. Enfin, genre, on se le dit, non. Au pire, tu coupes ça.
Tu sais que le sondage Team Neo, Team Apo n'est toujours pas terminé et que les gens peuvent aller voter.
C'est dans l'épisode précédent. Vraiment, vous êtes Neo, des cracks.
J'en profite justement pour dire que justement, si vous avez des goûts différents ou même les mêmes que les nôtres, à présent, grâce à Spotify, vous pouvez répondre sous cet épisode. Une petite question sera posée. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon protagoniste, et vous pouvez nous répondre et nous citer quelques exemples. On les lira avec attention.
Il y a toujours le petit Discord dans lequel on peut échanger tout ensemble.
Clairement. Le petit Discord, c'est un sujet qui m'intéresse. Du coup, je vais développer pourquoi je voulais poser cette question. C'est que moi, j'ai remarqué un schéma. Quand je pense bon protagoniste, il y a des noms qui me viennent en tête, forcément. Mm-hmm. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils ont des caractéristiques communes assez vénères. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas anodin du pourquoi. J'aime ces personnages et du coup en fait je voulais échanger sur ça, vous montrer aussi, enfin vous donner aussi mon point de vue sur ces personnages et pourquoi je les aime. Du coup là c'était un peu l'objectif d'échanger sur
c'était une trop bonne idée en vrai de suggestion et moi je me suis dit quand t'as suggéré ça j'ai voulu commencer déjà à y réfléchir et en fait j'ai pas voulu trop réfléchir pour vraiment construire ma pensée avec vous aussi quoi.
Okay.
Et je sais que pareil, j'ai des noms qui sont arrivés. Et pour démarrer, le premier nom qui m'est venu, c'est bizarre parce que ça fait une éternité que j'ai pas regardé ça. Le premier nom qui m'est venu, c'est Lelouch dans Code Geass.
Ok, ouais.
C'est vraiment, pour moi, c'est le personnage qui a fait l'œuvre.
Je suis d'accord.
Et en fait, il a plein de.
Je vois que Néo n'a pas vu Code Geass, du coup.
Moi, vous parlez de Lelouch, j'ai d'autres personnages en tête et je
ne
trouve pas hyper. Je ne trouve pas tant.
C'est le protagoniste de
Code Geass. Je vois le physique du personnage.
Et c'est vrai que il a plu à énormément. Enfin, c'est devenu un peu un emblème. Enfin, c'est un des personnages qui a été beaucoup repris sur Internet parce qu'il a énormément de charisme. Et genre, son chemin. Le long de l'œuvre, ses décisions, ses choix, son développement, et moi je trouve très réussi. Même si je rate très réussi, parce que Code Geass c'est un de mes animés préférés, je trouve quand même que ça a pas mal vie, mais je pense que c'est une œuvre qu'il faut regarder quand on est jeune, et pas quand on est. Maintenant que je suis adulte et que j'ai un peu de vécu, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont un peu moins. Mais dis-moi si vous avez avec quoi, 14 et 18 ans, vous n'avez pas vu Code Geass. Oui, non, mais même si vous
faites ça. Même plus tard, si vous n'avez pas vu Code Geass.
Entre 14 et 18 ans, vous allez vivre votre meilleure life. Quoi.
Avec du recul, c'était incroyable. Quand
non, mais avec du recul, il y a ce côté potentiel de voir les défauts de l'œuvre qui sont présents. Mais voilà. Mais oui, je suis d'accord, Lelouch, c'est un nom que j'aurais pu citer.
Et en fait, dans les autres noms qui me viennent, j'ai. Un truc qui revient, qui je m'en rends compte en fait est ultra superficiel, c'est déjà le look. Moi, il faut que.
Je me suis fait pareil et ça ne joue pas du tout.
Je suis d'accord.
J'ai des personnages qui sont dégueulasses.
Non, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas compris. Le look, qui peut être aussi bien.
Ça se dit Lelouch, CH.
SCH, rien à voir. Non, le look qui peut être aussi bien pourri que stylé, en fait. Genre, il faut que graphiquement il m'interpelle.
Bah ouais, non, mais bon,
les protagonistes ont tellement de charisme. Vous avez la ref ou pas?
Oui.
Ok.
Et c'est Pokizob.
Oui. Mais oui.
Mais non, moi, il faut qu'il ait un look qui m'interpelle. S'il est random, bah déjà, je vais pas avoir envie, quoi.
Et tu vois, moi, j'ai un contre-exemple.
Vas-y.
Donc, moi, un des premiers noms qui m'est venu, c'est issu de. Peut-être pas mon œuvre préférée, mais top 3, forcément, c'est Princess Mononoke. Et Ashitaka est un des personnages que je préfère.
Il a
ever.
Du charisme de ouf.
Ouais, mais son design est relativement banal, tu vois, je veux dire. Genre, ouais. il a oui, pas grand-chose oui, qui c'est... le fait. En fait, non, mais Ashitaka.
Quand même, un Light Yagami, c'est typique, c'est fait pour d'ailleurs, qui ressemble à n'importe qui.
Oui, mais justement, il y a un putain de charisme. Tu te souviens de sa gueule.
Oui, quoi. Mais je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est que.
Parce que l'œuvre t'a marqué, etc. Oui. Mais en soi, dans n'importe quelle autre œuvre, il est hyper.
Tu montres une photo de l'œuvre avec plein de personnages, dont ouais, Ashitaka, voilà. Et tu dis quel est le protagoniste. Je suis pas sûr qu'il arrive à te le trouver s'il l'a pas vu. Alors qu'il y a d'autres œuvres où tu vois tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose qui est fait dans le design, qui est fait dans les détails pour que tu le remarques. Et voilà. Mais, okay. Mais moi. Moi je trouve qu'Ashitaka en tout cas c'est moi Ashitaka il a du flow par ses répliques, par son attitude, son design, en vrai il est assez quelconque, et c'est moi c'est quelque chose que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il a ce côté du coup là on va arriver à mon premier point de choses que j'aime, c'est que j'aime beaucoup les personnages qui ont assez peu de prétentions, qui sont assez humbles dans leur façon d'agir. J'avoue que les personnages qui ont une grande gueule slash Naruto, Luffy, genre je veux être le meilleur, je suis le meilleur, je vais prouver à tout le monde que je suis le meilleur. Moi, ça me gave un peu. Enfin, je veux dire, j'ai pas énormément d'empathie. J'ai pas, mais aussi, je m'identifie pas à eux parce que je suis pas quelqu'un qui est comme
vrai,
ça.
Je peux comprendre.
Alors qu'au contraire, quelqu'un qui est très dans le, qui est très humble, très, en fait, qui, parce que pourtant, ils ont des, potentiellement, ils ont des, ces personnages-là ont quand même d'énormes objectifs, tu vois. Mais juste dans leur démarche, dans
après,
la façon
tu
de
vois,
montrer.
Moi, ça me gêne pas. Si à un moment donné, c'est bien foutu et que ils se prennent une grosse tarte dans sa gueule.
Quoi ?
Non mais je sais pas comment dire, mais en gros un mec qui se croit le meilleur et qui se croit hyper fort, si en fait derrière ça cache un mal-être ou un truc comme ça et que du coup il y a une grosse phase de remise en question, de descente.
Ça va plus se faire sur des personnages secondaires, je trouve.
Eh ben pas vraiment. Enfin oui si, mais moi j'ai un deuxième exemple qui me vient là du coup pendant qu'on parle, c'est Thorfinn typiquement,
ouais,
de Vinland Saga. Qui quand il est jeune est un gros krakos, il veut fracasser tout le monde. En fait, son évolution, elle est tellement stylée qu'il y a une telle remise en question qu'il en devient hyper charismatique. Et en fait, c'est ce qu'on disait quand on a fait le focus. On va peut-être pas en reparler trop ici parce que c'est pas le but, mais c'est vraiment l'évolution de Thorfinn qui fait l'œuvre au final, et pas les bastons de Viking.
Je suis d'accord, mais moi, par exemple, Thorfinn, dans le premier acte, il me saoule.
Mais oui, mais pareil.
Et dans le deuxième, quand voilà. Il prend du recul sur ce qu'il est,
donc c'est pour ça que je te dis, si après il traverse un truc,
mais
je veux dire,
c'est que moi, le personnage. Après, du coup, j'englobe tout parce que Thorfinn, c'est aussi son côté. Il serait pas devenu comme ça s'il y avait pas la première partie.
Oui.
Mais c'est parce qu'il devient comme ça dans la deuxième partie, tu vois. Alors qu'il y a quand même. Tu vois, et dans la deuxième partie, il est diamétralement opposé. C'est vraiment quelqu'un qui.
Complètement, oui.
Qui est dans le retrait, qui ne veut pas s'exposer, qui veut vraiment. Enfin, qui a pourtant une vision de vie qui est très. Qui est, enfin, je veux dire, aller au Vinland, c'est quand même. Un sacré objectif, je veux dire, c'est pas facile, tu vois. Mais dans sa façon d'agir, je trouve qu'il est pas dans le. Il n'impose pas forcément les choses. Il est vraiment en mode, moi, ça, c'est mon point de vue. Et ça, c'est. C'est vraiment les personnages que j'aime, c'est des personnages qui ont une forte vision des choses, mais qui vont pas chercher à tout prix à l'imposer à tout le monde.
Ouais.
Genre, ils vont être en mode, moi, c'est ça. Et eux-mêmes qui ont potentiellement conscience qu'ils sont dans le tort, qu'ils sont dans l'erreur. Qui, en gros, ils ont conscience que c'est pas la seule façon de penser, la seule façon de voir. Juste, c'est celle qui, eux, qui les correspond et qu'ils ont choisi de suivre.
Ok, ouais, non, mais je vois.
Par exemple, Ashitaka, c'est le cas. Ashitaka, il a choisi de partir. Il a été banni de sa tribu. Enfin, il a choisi de partir de sa tribu pour essayer de sauver sa vie. La phrase culte portée sur le monde, un regard sans haine. Juste, lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est se soigner et essayer au mieux de regarder les choses sans émettre de jugement, de haine sur le monde. Et il a conscience que ça ne fonctionne pas parce que le monde est hyper complexe et qu'il y a plein de problèmes. Juste, c'est son choix en fait. Et les personnages comme ça qui essaient de se trouver
Un moto, ouais.
Un mode de vie. Ouais, genre moi, ça me parle. Okay. Tu vois, Thorfinn, c'est le cas aussi. Thorfinn, ouais, il comprend. Bon, ça spoil un peu, mais après des événements qui surgissent au milieu de tome 9, il décide plus de suivre la voie qu'avait son père et d'essayer de comprendre cette voie-là. Qu'est-ce que ça signifie d'être un grand guerrier, etc., de ne plus vouloir se battre, etc.
C'est bref. Vrai.
Mais toi, Néo, on prend beaucoup la parole et...
Non, mais pas de souci, je vous écoute comme si j'étais un auditeur. Non, moi, je me suis fait... En fait, j'ai commencé par me faire une petite liste de personnages qui sont vraiment les premiers qui me sont venus. Okay. Et j'ai essayé de leur trouver des points communs. C'est plus comme ça que j'ai fonctionné.
Du coup, t'en as trouvé aussi.
Ouais, clairement. Et en fait, un truc qui revient, mais littéralement sur tous les personnages, c'est cette notion de bien et de mal. C'est un truc, en fait, qui déjà dans les œuvres me marque, et en fait, dans les personnages même. Soit des personnages qui sont très lumineux et qui vont petit à petit comprendre que le monde est un peu plus sombre que ce qu'ils avaient envisagé. On pourrait penser à Izuku Midoriya, par exemple.
Ouais, totalement.
On n'a pas parlé, mais c'est pour moi le meilleur protagoniste de Shonen, enfin, de ceux que j'ai
vu. Dans les comics, je trouve que tu pourrais le mettre, moi, du coup, plutôt du côté de Peter Parker,
Spider-Man. Exactement.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que très lumineux et qui d'un coup va se prendre une grosse claque dans la tronche, notamment la mort de son oncle, qui va comprendre que le monde est bien trop injuste et qui va essayer finalement de redresser ça. Ou alors, au contraire, des personnages très dark qui finalement vont être. Un peu plus lumineux que ça. Moi, ma série préférée, c'est Dexter. Dexter Morgan, c'est typiquement ça. C'est un psychopathe, sociopathe qui finalement va se retrouver un peu plus lumineux que ça, en étant toujours putain de tueur, évidemment. Mais clairement, il y a ça. Et puis, mon personnage préféré, c'est Matt Murdock, donc Daredevil, qui lui, au contraire, est toujours à la limite entre les deux.
Okay.
Qui lui est toujours sur cette ligne entre le bien et le mal. D'un côté, il est le bien parce que c'est un avocat qui défend les pauvres, qui a même. Un penchant catholique, enfin penchant, pas penchant, il est full catho.
Est-ce que vous avez un penchant catholique,
Non, mais très religieux, etc. Et puis, d'un autre côté, bah, il comprend aussi qu'il est un mal nécessaire pour Hell's Kitchen, qui va revêtir carrément le costume du diable, qui est quand même dans sa religion, voilà, et qui va aller fracasser les gars, parce que bah, finalement, c'est la seule manière de faire avancer le truc. Et je me rends compte que c'est vraiment le truc qui revient tout le temps, c'est cette notion de bien et de mal, où est-ce qu'on situe la frontière. Est-ce qu'on peut la franchir des fois quand c'est un... Est-ce qu'on peut la franchir des fois quand c'est un mal nécessaire? Est-ce qu'au contraire, il faut toujours être gentil? Est-ce que si je suis tout le temps gentil, je fais vraiment avancer les choses? Bref, c'est vraiment un truc qui me passionne.
T'aimes bien ceux qui ont des dilemmes moraux, quoi.
Exactement. Ouais, c'est vraiment Thierry. Le truc qui me passionne à 200%. Quoi.
Thierry Moreau. Allez. Allez ça... Non, mais pour continuer et me...
oui, vas-y, vite, enchaîne.
Je vais enchaîner. En affinant ma pensée, je reviens sur mon truc de style et je le maintiens. Plus que du style, je parlerai plus de charisme. Et en fait, ce que j'aime vraiment dans les persos charismatiques, c'est justement quand ils ont une phase comme un peu Izuku, tu vois. Genre en mode remise en question, ou comme Thorfinn, pareil.
Izuku, c'est pas le charisme incarné quand même. Après
coup, moi, je trouve que même dès le début, il a un charisme.
Ouais, moi aussi.
En fait, c'est un charisme très...
Quand il tient tête à... Pour moi, c'est une forme de charisme quand il tient tête à Bakugo.
Ouais,
tout
non,
en étant sûr. Sympa
mais
et avec le smile.
Mais
le charisme, c'est quand tu rentres dans une pièce, on voit que toi, tu vois ce que je veux dire.
Enfin, c'est dans le tome 1, il s'élance pour aller aider Bakugo qui est en train de se faire défoncer, il a aucun alter, il a rien à faire. J'étais en mode, ce mec-là, je veux voir ce qu'il va devenir.
C'est un de mes personnages préférés aussi, je suis en train de le défoncer, mais je trouve que c'est pas non plus le personnage qui respire le charisme. Moi, par exemple, j'adore Invincible, c'est pareil, le personnage principal, il respire pas le charisme. Au fur et à mesure de l'histoire, il devient de plus en plus puissant, de plus en plus confiant, et du coup, il respire de plus en plus le charisme. Et je trouve que c'est exactement pareil pour Izuku.
Ah, mais tu vois,
quand vraiment dans les derniers arcs, il transpire le charisme, il en déborde.
Ouais,
tu
il
vois.
Est incroyable.
Mais bon, pour moi, c'est pas qu'il n'avait pas de charisme avant, c'est juste qu'il a. Et tu vois, il a réussi à le cultiver, entre guillemets. Je sais pas comment dire. Dès le début, en fait. Vas-y, il y a différentes formes de charisme. Moi, je trouve justement des personnages qui sont. Tu vois, genre, on dit souvent, ah lui, il est charismatique parce que quand il parle, tout le monde se tait, ou tu vois, c'est comme ça et tout. Non, aussi. Il y a des personnages qui choisissent délibérément de se taire et je trouve que ça peut être un charisme de pas gueuler sur tous les toits ou s'imposer, tu vois.
Ah, mais
je trouve
qu'il y a du charisme
en forme de classe,
savoir quand...
D'accord.
Est-ce qu'il choisit de se taire ou est-ce que c'est pas un peu un manque de confiance en lui, etc., du fait que, tu vois, il a pas de super pouvoir, du fait que
tu vois,
tout ça, tu vois.
Juste pour appuyer ce que je dis, il y a un truc qui vient de me popper, c'est typiquement Tommy Shelby dans Peaky Blinders. Je pense que si c'était juste un gars stylé en costume, bah ce serait vide, en fait.
Bah, surtout qu'il y en a plein dans l'œuvre.
Ce qui est intéressant,
c'est lui qui transpire.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, t'as toutes ces scènes où il est insécure presque. Enfin, il est pas bien, il est en insécurité, il a des troubles, il a des traumas, il gère ça. Et c'est aussi ce combat personnel
Tu pourrais faire un Ragnar Lodbrok dans Viking qui pareil, avoir des punchs absolument
exactement. Et en fait, ouais, je pense que moi, tu vois, en affinant, c'est plus ça, c'est plus que le héros soit confronté à un combat perso et presque interne, quoi.
Bah, tu vois, là, ça me touche. Je viens de le dire, j'avais pas dans la liste, mais Heisenberg, typiquement, c'est un des meilleurs protagonistes possibles pour moi parce que tu passes du personnage vraiment lumineux, genre le prof, bien cool avec
une famille, etc.
Ouais, oui, et en tout cas, qui est trop, trop cool. À la fin, c'est le total opposé. Ouais. Il a franchi cette ligne entre le bien et le mal, et il n'est plus revenu du côté lumineux. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une des meilleures séries, parce que le personnage, il a un parcours qui est juste incroyable. Quoi.
Ouais, c'est vrai que Breaking Bad, pour le coup, c'est vraiment la série que tu dis, genre,
il est détestable, officiellement.
Il transperce l'écran, genre.
Ah bah ouais, clairement.
Parce que pourtant, j'ai plusieurs fois arrêté pour des raisons diverses au cours de la série avant de la finir. La saison 1, il ne se passe quasiment rien. Mais en fait, juste le développement, le personnage, enfin tout ce qui émane, t'es en mode, en fait, ça te captive. Parce qu'en vrai, si tu récapitules tous les événements qui se passent pendant les 6 saisons, il se passe pas tant de choses que ça. Il y a beaucoup d'épisodes assez flottants. Mais en fait, justement, c'est juste.
Typiquement, si t'as pas Heisenberg, l'épisode de La Mouche, ouais, tu peux rien en faire.
Genre, voilà, les personnages, en fait, juste, ils portent l'œuvre pour le coup.
Complètement.
Ouais, bah, exactement, quand tu parlais de porter l'œuvre, bah, Dexter Morgan, pour moi, c'est ça, Heisenberg, c'est ça. Ces personnages qui, en plus, sont détestables, et le fait d'arriver à faire accrocher le spectateur à des personnages détestables, c'est ultra. Enfin, c'est ultra ballsy et ultra bien fait, quoi.
Et à l'inverse, il y a des persos qui sont vraiment pas très très bien écrits.
C'est personnel, encore une fois, on le répète.
J'en ai pas tant que ça en tête. J'ai blagué sur Natsu parce que c'est un des derniers qu'on a vu et qui, effectivement, moi, m'a marqué dans le sens où j'aime vraiment pas sa construction. Mais en fait, ils sont tellement oubliables que moi, vraiment, je les oublie, en fait.
Ah, mais je l'ai cité tout à l'heure, mais Jujutsu Kaisen, pour moi, c'est vraiment le. Autant, tu vois, genre vraiment, je ne rappelle pas son prénom. Même dans les. Il y a la plupart des arcs, je ne sais même plus ce qui tourne dans l'arc. J'ai l'impression que c'est les autres protagonistes, enfin les autres persos qui font des trucs. Oui, non, mais ok, c'est lui en forme Sukuna des fois qui fait. Tu vois, je me rappelle de.
Sukuna,
ouais, Sukuna, c'est quoi ? Je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, mais Sukuna, mais genre, c'est lui sous. Tu sais, mais c'est même pas lui en fait, genre c'est.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Enfin, je trouve que Yuki vraiment.
Et... pour moi ça, je pense que c'est un des trucs qui fait que j'ai vraiment drop Jujutsu Kaisen et que j'ai pas aimé au final avec vraiment du recul. C'est que vraiment en fait. Il y a même pas le truc de, tu vois, Naruto, même si c'est loin d'être un personnage que j'adore, j'ai quand même de l'affect pour lui, tu vois.
Après, je trouve que c'est plus dur de taper sur du Neketsu. Alors, on a cité My Hero Academia qui crève tout, parce que surtout, moi je suis Anime Only et ce qui se passe là dans la saison 6, ça le met tout
coup,
autre
on rang. S'est fait la réflexion avec Apo, c'est presque à jour sur le manga.
Okay.
On a donc d'avoir 2 tonnes d'avance.
Okay. Bah, moi je trouve que ça le place dans une toute autre strate, en fait. Et j'en parlais chez nos amis de YPDLM, c'est Béval, du podcast YPDLM. Allez checker ça si vous en avez l'occasion. On en parlait justement de cette saison 6 et je disais que c'est vraiment cette saison qui a fait passer l'œuvre dans un tout autre registre et dans un tout autre niveau, quoi. Et ça, c'est grandement grâce à Izuku.
Mmh. Encore une fois, si vous aimez ça, lisez Invincible, c'est exactement pareil ce qui se passe, voilà.
Mais non, mais ouais, franchement, Midoriya, pour moi, c'est vraiment
j'ai un très bon exemple.
Moi j'ai un mauvais exemple. Mais
parce que vraiment, je viens de regarder en face.
Vas-y, le bon exemple d'abord et après on ira sur le mauvais.
Non, justement, le bon exemple d'un mauvais protagoniste.
Ah, bah allez-y.
En fait, moi, je vais aller vite parce que je sais que vous n'avez pas lu Beastars.
Non, ouais.
Mais genre, Legoshi, donc le loup, c'est littéralement le meilleur personnage que j'ai jamais vu de ma vie, tout œuvre confondue. Genre, vraiment, l'œuvre est incroyable. Dès qu'il était dans une case, dès que je le voyais évoluer, j'étais heureux. Vraiment, ça m'a. Cette œuvre, mais après, bon, c'est ma plus grande claque que j'ai prise cette année. Là, je l'ai lu en début d'année. J'avais déjà vu l'animé. Du coup, j'ai voulu me finir parce que l'animé ne récapitule pas encore toute l'œuvre. Incroyable. Genre, vraiment, si vous voulez lire un truc, vraiment, c'est insane. Et notamment pour le protagoniste. Et un exemple même, pareil, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ReZero. Mmh. Donc, l'animé. Alors j'ai complètement détesté l'animé, donc je suis désolé parce que je sais que c'est une grande fanbase, donc voilà. Le personnage principal est le personnage le plus insupportable que j'ai jamais vu de ma vie. Il meurt plusieurs fois parce que c'est son pouvoir de revenir à la vie, de revenir dans le temps, etc.
Je
souhaitais littéralement que l'œuvre s'arrête à chaque fin d'épisode. Il est insupportable. Justement, il a tout l'inverse de mes personnages que j'aime, qui sont dans la retenue, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il s'impose constamment alors que c'est des sous-merdes. ils essaient constamment de prendre toute l'attention sur eux.
C'est Asta dans Black Clover un peu.
J'ai pas vu Black Clover.
Ouais, non, je déteste
ça. Mais en gros, il est constamment en train. Et ça, c'est les personnages que j'ai vraiment du mal avec. C'est les personnages qui veulent constamment être au centre des choses. Et en fait, jamais ils essaient de se poser trois ans. En fait, c'est des personnages qui se remettent pas en question. Jamais ils se disent attends, mais en fait, peut-être que c'est pas adéquat que je fasse ça à ce moment-là. Non, lui, il en a rien à foutre. Genre, au moment où il y a un putain de truc où il y a des grandes politiques qui parlent, le mec, il vient, il commence à mettre sa poire et les gens sont en mode mais t'es qui, frérot? Genre, enfin. Surtout qu'il dit que full merde. Enfin, genre, vraiment, ces personnages-là. C'est vraiment l'opposé des personnages que moi j'aime, c'est-à-dire les personnages qui, en fait, vont essayer de parler et d'agir seulement quand c'est vraiment. Ils jugent cela nécessaire et qu'ils n'ont plus trop d'autres choix. Je sais pas comment dire, il n'y a vraiment pas ce côté de. Ouais, en fait, j'aime les personnages qui sont humbles et qui ne s'imposent pas.
Ouais.
Et ça, c'est okay. L'opposé des amateurs. Et du coup, je voulais citer parce que j'ai vraiment. Je déteste ce personnage. Genre, Subaru, tu es une grosse merde.
Et t'as un nom de bagnole en plus. Ouais. En plus.
Et donc, et pour moi, c'est l'exemple parfait de. Si vous faites un personnage comme ça, je vais drop l'œuvre. Parce que. Enfin, mon personnage principal, parce qu'après, il peut y avoir des.
Écoutez ça, les mangaka.
Genre, si vous voulez mon fric.
Non, il en a un œuvre.
Léo, t'avais un exemple.
Ouais, parce que là, on est en petit inside, on tourne chez moi.
Ouais.
Et j'ai mon étagère en face avec un de mes films préférés, qui sont Les Gardiens de la Galaxie. Mm. Bah, typiquement, Star-Lord.
Oubliable as fuck.
Non, qui est très marrant dans le premier. Mais en fait, en tant que personnage même. Il devient détestable. Comme il est utilisé dans les films Avengers, c'est horrible. Comme il est utilisé dans le 2, il est insupportable. Et en fait, c'est le personnage qui, petit à petit, en fait, ouais, m'a dégoûté du truc. Où je me disais, mais t'as Star-Lord, quoi. Et c'est trop dommage, parce que c'est vraiment un de mes films préférés. Enfin, vraiment, j'en parle à H24. C'est vraiment un film que j'adore. Et pourtant, Star-Lord, c'est pas trop ça. Et autre exemple que j'ai, je parle que de comics, en même temps, c'est le premier truc qui me revient. Si aujourd'hui, je lis jamais de X-Men... Parce que les gens qui me suivent savent que c'est un truc que je lis jamais. C'est parce que le personnage de Cyclope, qui est un des protagonistes, est un personnage que je déteste. C'est probablement le personnage que je déteste le plus des comics. Justement, Apo disait, le truc de leadership, lui, c'est que ça. Il est caractérisé que par le fait que c'est un leader né. Je suis en mode, mais oui, d'accord.
Mais évolue, frère.
Alors, attention, vu que j'en ai pas beaucoup lu, il y a probablement des arcs incroyables avec lui où il est.
Il développe. Mal,
etc. Ouais. Très bien. Mais c'est un personnage qui m'intéresse, mais pas du tout. Et qui fait que je vais même pas mettre le nez dans un comics X-Men si je vois qu'il est sur la cover.
Ah ouais, à ce point, quoi.
Vous entendez, les éditeurs? Petit photomontage, là, on enlève le cyclope.
Faites-moi croire qu'il est pas dedans et j'achète.
Après, il y a aussi beaucoup d'œuvres qui, par choix, n'ont pas un protagoniste.
Oui.
C'est une question que je voulais vous poser. Vous préférez un protagoniste? Enfin. Un bon protagoniste, mais quitte à avoir un mauvais protagoniste, vous préférez qu'il soit détestable ou oubliable?
Oubliable. Parce que. En fait, ça dépend.
Ouais, non. Il déclenche quelque chose.
En fait, ça dépend. C'est dur.
Le problème d'oubliable, c'est que, bâtiment, en fait, dans Jujutsu Kaisen, c'est ça. Il est transparent. Genre, je ne vois rien quand je.
Non, mais en vrai, ça dépend. S'il est oubliable parce que l'œuvre le surpasse et qu'elle est énorme, moi, ça me va.
Ouais.
Ah, s'il se fait dépasser par la.
Si tout le reste est incroyable.
Genre, typiquement, je vois, on est chez toi, t'as une des meilleures BD françaises actuellement au monde, qui est Carbone et Silicium, de Mathieu Babelais. Les deux androïdes, je me rappelle plus leur nom.
Carbone et Silicium. Spoiler. C'est vraiment le titre de la BD.
Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il me casse les couilles. Mais...
Putain, c'est vraiment ta BD préférée,
gros. Ah ouais. Ah, vraiment, tu l'adores, cette BD.
Je me rappelle plus leur nom, ça me fait rien.
Vivement, tu me mets dans l'émission, là. Il va être
fermez vos gueules. Je m'en fous, je vous mute. Non, mais je veux dire, je me rappelle pas de leur nom, ça me fait rien du tout.
Oui.
Parce que, en fait, au final, c'est pas eux que j'ai retenu, c'est leur voyage et l'histoire du monde que Babelais a inventé et toute la cohérence qu'il y a là-dedans, quoi.
Donc, oui, après, ne pas se rappeler du nom d'un personnage, pas non plus... Enfin, je veux dire, moi,
c'est quand même un bon indice, quoi.
Ça peut.
Ouais.
Genre un Izuku, tu l'oublies pas.
Tu serais capable.
Ouais, moi, je serais capable aussi. Je pense. En fait, j'ai des périodes où des fois, il y a des. Genre, je sais plus mon prénom, gros.
Non, mais t'es teubé avec une teub majuscule.
Une teub majuscule. Non, mais
par contre, du coup, oui, je voulais rejoindre, c'est qu'en fait, aussi, des fois, en fait, c'est volontaire de faire des protagonistes, comment dire, qui s'effacent par rapport au récit. Ou qui, justement, je pense que pourquoi dans beaucoup de shonen, le parti, c'est un protagoniste très mis en avant, etc. C'est que, en fait, et aussi, ils ont une question de... En fait, la volonté derrière la création des personnages, tu vois. Mm. Et du coup, des fois, forcément, c'est normal que le protagoniste, c'est pas... Même des fois, le fait que tu détestes le protagoniste, c'est veut dire que l'œuvre est réussie.
Bah, si on revient sur Code Geass, typiquement, oui, voilà. Le louche, le but, tu le détestes pendant les trois quarts du truc. Quoi.
Oui.
Mais et c'est fait pour, et c'est pour qu'à la fin tu te prennes une giga claque.
Et même en fait, genre, des fois, si tu décris un personnage horrible avec des choix moraux plus que contestables, si à la fin t'es en mode putain, trop bien, il est trop cool. Non, en fait, à la fin, putain, il était horrible, mais qu'est-ce que j'ai aimé le voir. En fait, il y a un peu un côté voyeurisme.
Il y a un truc. Ceux qui ne suivent pas les comics savent peut-être pas, il y a eu un gros débat sur Punisher depuis 4 ans maintenant. En gros, Punisher est un personnage détestable qui tire sur tout ce qui bouge. Enfin, à peine il y a un souci, il tire dessus. Et il y a des flics d'extrême droite américaine qui sont récupérés le logo et l'histoire du personnage.
Même en France, là, récemment, dans les, dans les manifestations. Même dans les manifs,
En disant, putain, le personnage est trop cool. Genre, ils l'ont pris en exemple. Oui. Alors que l'auteur même est en mode, mais vous n'avez rien compris au personnage. Vous avez rien compris. Mon pote. Et du coup, c'est exactement ça. C'est un super protagoniste parce qu'il est détestable. Oui. Parce que justement, il te fait remettre en question tes choix à toi. Et tellement il te montre l'exemple à ne pas suivre. Quoi.
En fait, on peut aimer détester quelqu'un. En fait.
Mais tu vois, j'ai la même chose avec, j'en reviens, mais Tommy Shelby.
Ouais.
Genre le nombre de gens qui le trouvent trop classe et que
Scarface,
qui approuvent ce qu'ils font,
Tony Montana,
ils comprennent
même,
rien.
Alors, combien de personnes te disent ah, je suis Tony Montana, mais t'as vu le film, t'as vu Scarface,
le rap français
alors
actuellement.
Oui, son histoire est incroyable et son développement est fou, mais
c'est un connard.
Genre c'est pas stylé de dire que
je suis Tony Montana.
vraiment le mec,
je suis d'accord, mais ça, c'est, je pense, des gens qui passent à côté de
du propos.
Ouais,
ou qu'ils le prennent
Tony Montana. Non, mais...
ou qu'ils le prennent un peu à la légère et qu'ils veulent pas peut-être qu'on a juste pas les mêmes critères, tu vois, aussi.
Oui.
Ils veulent juste pas se poser de questions,
les mêmes valeurs, hein, ça, les gens, ils peuvent trouver ça stylé. Enfin, je veux dire, tu parlais de Thomas Shelby, moi je trouve que, enfin, c'est vrai qu'il se comporte comme un connard, ça pue le charisme, mais genre franchement il prend sa famille, enfin il leur dit rien, enfin vraiment il est d'un égoïste, enfin il est tellement, enfin d'égoïste, en même temps il fait tout ça pour sa famille, mais il est tellement vraiment,
on peut dire que ses intentions sont louables, mais la manière dont il les fait, c'est catastrophique.
Et c'est
de là d'où viennent tous ses problèmes, même.
Oui.
Donc, ouais, non, mais c'est sûr.
Mais c'est sûr.
Bon, de toute manière, on pourra parler pendant des heures, on aurait des exemples qui n'en
pas. On est parti un peu en dehors du manga, mais c'est aussi ce qui est
intéressant.
Mais après,
moi, quand je parlais de protagoniste, même, parce que, bon, on parle majoritairement de manga, mais plus que ça, on parle d'œuvres et de fiction. Et je trouve ça intéressant de même, parce que même si c'est des médias différents, je pense que le processus créatif derrière est très similaire.
Ouais, ouais.
Genre, c'est quand tu crées un personnage de base, il vient de tes pensées, de ta façon dont tu l'imagines, de ton imagination. Donc c'est la même chose que tu le dessines ou que tu demandes à un acteur de l'incarner à l'écran. C'est la même chose, entre guillemets. Donc pour moi, je trouve ça très pertinent. Enfin, moi, mon but aussi, mon premier exemple, c'était Ashitaka. C'est un film d'animation, c'est pas du manga, et mon but, c'était vraiment qu'on s'éloigne, mais clairement.
Mais on pourra se poser un jour la question, du coup, d'un bon
antagoniste.
Mais il y a plein de... Moi, il y a des thématiques, même, j'aimerais qu'on se demande, genre, qu'est-ce qu'une bonne romance, qu'est-ce qu'une... Et qu'on parle, en fait, de nos feelings à nous, qu'est-ce qui font qu'on aime.
N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce petit débat, qu'on sache si on relance ça.
Et encore une fois, on s'excuse si on a tapé sur votre merde de Subaru. Non,
t'excuses pas, t'as le droit de pas aimer, arrête de t'excuser.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, je fais comme mes personnages, je me mets en retrait. J'ai conscience que ce n'est que de la subjectivité et que, en fait, il y a une question de goût.
Les auditeurs d'Exlibri sont assez matures.
Non, mais tu vois pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de bosser pour la team Apo.
Ah, c'est ça.
Il fait que ça.
Non, mais non.
Les gens savent.
Moi, en tout cas,
les vrais savent. Les vrais savent.
Tous les personnages qu'il a dit qu'il détestait, moi, je les adore.
Il n'en connaît aucun.
Eh ben, très très intéressant, messieurs. Merci beaucoup pour ce petit débat. N'hésitez pas, comme l'a dit Néo, à nous dire si ce genre de petites choses vous plaisent. Et maintenant, grâce à Spotify, vous savez, vous pouvez directement interagir sous ce podcast. Et ça, c'est un réel plaisir. Eh ben, messieurs, je vous propose qu'on passe à la recommandation du mois. Allez. Et ce mois-ci, c'est...
C'était moi qui avais donné. Oh. Donc, c'était un recours un peu feel good, parce que vous arrêtez pas de dire suicide est tout le temps déprimé, tous ces trucs, ça parle de suicide.
Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment, il choisit deuil, et à un autre moment, feel good. Bon, à un moment, faut. Voilà.
Oui, voilà, du coup, j'essaie d'un peu de contrebalancer pour prouver que je ne lis pas que des trucs qui me mettent le cafard, mais aussi des trucs qui me font ressentir des émotions.
Il
très
nous
positives.
A regardé, il nous a dit mais enfin.
Mais enfin je suis quelqu'un de positif.
Mais la preuve qu'on lit très peu de positif, c'est qu'on a tous galéré à trouver.
Mais moi, j'ai pas galéré.
Ah oui, forcément, t'as choisi le thème.
Ouais, mais d'ailleurs, qui est venu, qui est venu en cours, parce qu'en fait, du coup, bah, je vais commencer. Vu
vas-y, je t'en prie.
Du coup, je vais parler d'un disque qui s'appelle, alors je vais, le nom, je vais l'écorcher, mais c'est Hirayasumi, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps de l'auteur Kengo Shinzo, un auteur que j'adore, que j'avais parlé un petit peu fin d'année dernière, parce que j'avais lu Mauvaises Herbes, qui était une de mes top 3 de lecture de l'année. Donc, c'est toujours chez Les Arts Noirs qui édite tout ce que fait l'auteur. Donc, c'est un tome 1. Donc déjà, d'habitude, je fais pas trop ça. J'essaie de prendre des œuvres finies ou qui ont un peu de matière. Là, le tome 1 vient de sortir. Coup de cœur absolu. J'ai passé une des meilleures lectures de l'année là, jusqu'à aujourd'hui. J'étais en mode, je veux le tome 2 maintenant. Il ne sort que en été, je crois, donc j'ai envie de crever. Mais bref.
Bah, tu vois que c'est hyper.
Non, mais voilà. Et j'ai envie de crever. Je voulais en parler parce que vraiment, c'était un titre que beaucoup de gens attendaient. Bah, tous les fans de l'auteur attendaient cette série. Parce qu'en plus, ça va être une série un peu plus longue a priori, parce que je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes au Japon et c'est pas encore fini, donc on va avoir un peu de matière. Mm-hmm. Donc les gens ont hâte. Et du coup, là, donc, je vais vous parler un peu de l'œuvre et pourquoi j'ai tant apprécié. Donc en gros, ça nous parle d'un jeune adulte qui s'appelle Hiroto. C'est pas bizarre comment je l'ai dit, non ?
Hiroto. C'est un peu espagnol, quoi.
Hiroto. Bref, un jeune homme de 29 ans qui est donc friteur. Donc friteur, c'est des gens, c'est un peu, on va dire, des.
Qui font les frites.
Et c'est un peu des. Alors, oh putain! Les Belges vont le détester depuis les deux derniers podcasts.
J'ai peur un peu de. J'arrive pas à parler. De...
Yes.
Ouais, bah ouais. Oui.
Bref, en gros, c'est des, non, c'est un vrai. Peu des intérimaires. C'est des gens qui acceptent des missions, qui en fait, qui vivent un peu. Juste qui enchaînent les petits boulots, les missions d'intérim.
Intérimaire.
Okay. Voilà. Donc il a 29 ans. Et en gros, ce personnage, en fait, c'est un peu une série classique, c'est qu'il a du mal à parler aux femmes. Dès qu'une femme lui plaît, il perd un peu ses moyens. Par contre, les grands-mères, il est super à l'aise avec. Non mais juste,
j'attendais le twist.
Non mais en fait, juste, il est super à l'aise. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Non mais oh, c'est bon, on se calme là. Oh, hein. Il est très chaleureux et simple.
C'est un manga sur Macron.
Non.
Oh waouh.
Pas du tout. Mais bref. Donc je disais, c'est juste qu'en gros quand il croise des, en fait il n'hésite pas à aider son prochain et du coup souvent quand il voit une personne âgée en train de galérer, il l'aide. Et en fait c'est quelqu'un de tellement souriant, avenant et à l'aise qu'en gros il s'entend très bien avec les personnes âgées parce que justement les personnes âgées, à l'inverse souvent ce qu'on dit c'est que les personnes qui sont assez isolées, elles ont du mal des fois à avoir de contact social. Bref, et du coup avec une de ses grand-mères, il a un rendez-vous, il va deux fois par semaine manger chez elle, il lui tient compagnie, etc. Sauf que malheureusement, elle décède. Et en fait, cette dame qui n'avait aucune famille, en fait, lui lègue sa maison. Ah oui. Du coup, il se retrouve avec une petite maison. C'est une petite maison pavillonnaire en plein pied, etc. Mm-hmm. Et donc, un peu d'éléments déclencheurs, il y a sa cousine, Natsumi, si j'ai bien noté, qui vient elle aussi sur Tokyo, parce que ça se passe en métropole. Et en gros, qui vient aussi à Tokyo pour faire ses études. Du coup, elle vient emménager chez lui, parce que lui, du coup, il a une baraque maintenant, donc il est en mode, viens. Du coup, on va suivre un peu ces deux personnages. Donc, elle qui commence ses études et qui a beaucoup de problèmes, on va dire, sur à se faire des amis, qui se pose des questions sur son futur. À côté de ça aussi, il y a le meilleur ami du coup du personnage principal qui, lui, à tout l'inverse, a un travail depuis genre 5-10 ans, a une femme, va avoir un enfant. On suit aussi une autre femme qu'on va sûrement beaucoup voir dans les prochains tomes, qui est une travailleuse acharnée. En fait, on suit plein de petits gens qui ont des problèmes. Mmh. Et lui, à côté, qui vit sa meilleure vie, genre il vit hyper simplement. Et en fait, il a vraiment ce côté de, les gens vont se rendre compte à son contact qu'il est, en fait, il prend tellement la vie avec un.
Mais c'est quoi, il vit chichement, genre, ou même pas?
Il vit quoi?
Chichement.
Chichement.
Mais tu viens d'où?
Mais c'est vrai, chichement. Ça existe, non? Chichement,
genre,
c'est-à-dire avec.
De faire quelque chose?
Non, chichement, c'est avec peu de moyens et il en a pas besoin de plus, quoi.
Non, genre, là, je crois que.
Waouh!
Dans le tome 1, il travaille dans un truc où, en gros, tu peux pêcher. Genre, c'est des petits bacs où tu pêches des poissons. Genre, c'est une activité un peu. En gros, il s'occupe de ça. Donc, peut-être qu'il va changer de job parce que, vu que c'est un friteur, normalement, il est censé un peu enchaîner les jobs différents. Mais juste, en fait, il achète de quoi. En fait, genre, il a pas vraiment de plan dans sa vie.
Ouais, tu voilà. Même... En gros, il achète sa bouffe, ses machins.
Ouais, voilà. Et il vit sa meilleure vie. Genre, il cuisine, il adore cuisiner. Pareil, moi, c'est. C'est un manga qui m'a fait rire parce que, en vrai, c'est con, mais je suis quelqu'un qui aime des choses hyper simples et juste le voir vivre sa vie avec sa cousine qui lui fait bouffer, voir son pote venir à la manger. Enfin, il y a vraiment ce côté, genre, en fait, t'as pas besoin de beaucoup de choses pour être giga heureux. Mmh. Et j'ai l'impression, parce qu'on va voir comment ça évolue, puisqu'en plus, Kazuko Shinzo, avec Mauvaises Herbes, il parlait de sujets un peu plus sérieux. J'espère qu'il va rester dans cette vibe un peu de... En fait, la vie, c'est, ça peut être très simple. Genre, le bonheur, c'est pas de, des choses très compliquées. Et en fait, il y a toujours des solutions. Et en fait, l'état d'esprit dans lequel tu abordes les choses, ça a vraiment affecté la résolution de celle-ci. J'ai l'impression qu'il va tendre là-dessus. Je sais pas si c'est le tome 1.
C'est en ça que tu as trouvé que c'était feel good, c'est que ça te rappelle que tu as finalement les petits soucis de la vie, c'est pas
c'est
si
ça.
Grave.
Il y a ce côté-là. Bah côté ouais,
trois potes, trois micros, et on y va. Putain, un bol avec du sifflard dedans, et on est parti.
Et surtout que le personnage principal, j'aurais pu le parler dans les protagonistes. Bon, là, c'est qu'un tome, donc c'est difficile de vraiment dire. Mais, genre, juste en deux pages, t'es en mode, mais je veux que ce soit mon pote. Le mec est tellement gentil, tellement. Enfin, je sais pas comment dire, il a, le mec, tu sens que c'est une bonne personne. Genre, littéralement, c'est une bonne personne. Et ça, en fait, ça fait du bien de juste voir des gens. C'est très slice of life, parce qu'il se passe pas grand-chose.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Et du coup, y a, ça, en fait, quand j'ai fini avec toi, j'étais en mode, putain, mais j'ai juste regardé des gens vivre leur meilleure vie tout en ayant plein de petits... Pardon, plein de petits soucis.
Un par podcast.
Toujours. Toujours. Non, mais plein de petits soucis. Et juste, en fait, ça
c'est
m'a...
C'est un peu mon voisin Rototo.
Oh oui.
C'était Hiro Toto.
Oh oui, non mais oui, mais l'enchaînement. J'ai plus l'applause sur la mixette.
De toute façon, le timing est pas de
cut. Non mais voilà, donc en fait, j'ai juste passé un super moment. Je sais pas comment. En fait, du coup, je conseille une œuvre que je sais pas du tout comment ça s'est développé. Mais vu l'auteur, parce que j'ai lu tout ce qu'il avait fait.
Est-ce que tu peux rappeler le titre? Parce que tu l'as dit juste au début.
Hiraya Sumi.
Ok.
Encore
alors,
une fois,
je vous laisserai, aller chercher. Sans ça, vous tapez Keigo Shinzo, vous allez forcément trouver vu qu'il a pas.
Si vous n'arrivez pas à le taper, vous tapez mauvaises herbes, c'est bien plus simple. Vous tapez vous cliquez sur l'auteur et après vous cliquez sur son dernier.
Vous allez sur Les Arts Noirs, donc l'éditeur. Ça doit être une des plus grosses sorties qu'ils ont fait ces derniers mois vu que l'auteur est un peu.
Ou alors vous vous emmerdez pas, vous téléchargez une super appli qui s'appelle Manga Collect et vous avez tout dessus.
Exactement.
C'est pour
de toute façon, vous avez Manga Collect, vous allez trouver direct. Et donc voilà, donc c'était vraiment un bonheur à lire.
Bah ça donne vraiment envie pour
franchement, ouais. Et bah, si ça reste feel good et tout,
et
bah,
je vous conseille,
peut-être
que je vous le prêterai si vous voulez. Parce que. Et je vous conseille, et du coup, plus que même cette œuvre, je conseille l'auteur qui est un génie et à suivre absolument.
Un génie.
Ok.
Un génie. Le mot est lâché.
Et je veux dire, génie.
Masterclass.
Oh okay. Non, le banger.
C'est un banger, est-ce que c'est bon pour vous?
C'est bon, okay, les autres.
C'est bon, je crois que c'est bon. On a le
on est trop jeunes, quoi.
Qui va enchaîner là-dessus?
Bah moi j'y vais.
Allez
j'y vais. Bah Néo, tu le disais en introduction de ces recos, c'était assez dur en fait. J'ai été devant ma bibliothèque comme un con. Et je me dis putain mais feel good, c'est chaud quoi. Et en fait bah comme je cherchais un récit très feel good. Et parce que je m'étais arrêté là et en fait tu nous l'as rappelé un petit peu tout à l'heure, tu as dit ça peut être juste le mood dans lequel on est quand on le lit. On peut
en fait,
se sentir
faut que
très
du
bien,
bonheur
quoi.
Genre juste
tu as pensé à Nightwing.
Et en ça, et ben, je vais vous parler de Nightwing. Non, c'est pas vrai. Non. Du coup, j'ai pensé à un truc dont j'ai vraiment mis du temps à m'y mettre, mais je regrette pas du tout. Et c'est Space Brothers. Ça
y est. Oh, alors,
j'ai toujours pas commencé. J'ai 27 premiers tomes.
Ça y est. J'ai commencé. Et en vrai de vrai, alors j'aurais pu vous parler de Naruto, parce qu'à chaque fois que je reçois un tome, je suis content, mais c'est plus de la nostalgie qui me rend heureux que.
Mais ça marche aussi.
Ouais, ça marche aussi en vrai.
Je vais pas recommander Naruto.
Non, effectivement.
Voilà.
En plus, on en a marre, t'en parles. Donc.
Voilà.
En plus,
c'est donc, tellement niche, je pense que les gens vont pas trop aimer.
Personne connaît. Bon,
donc je me suis dit, pourquoi pas Space Brothers. Et en vrai, c'est vraiment un truc que j'ai eu. C'est que quand j'ai reçu mes tomes, quand j'ai fait mon craquage là, parce que c'est quand même en 41 tomes, hein, pour ceux qui veulent s'y mettre, c'est chez Pika, c'est de Shuya Koyama, d'ailleurs, tant qu'on y est. Et quand j'ai commencé la lecture, bah, en fait, quand je me suis arrêté, il faisait nuit et j'en avais lu 6-7, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un bon indice déjà.
Ouais,
tu
non,
te dis, j'ai pas envie de lâcher. Et en fait, je me sentais bien parce que les persos sont cool, l'ambiance, elle est très chill, très cool. On parle d'un domaine qui me passionne, qui est l'espace, et c'est quand même très, comment dire, c'est très réaliste. Dans le sens où bah, on a des vrais tests spatiaux, etc. Je ne veux pas spoiler parce que je sais que ça t'intéresse à peu et tout. Donc, ouais. Je ne préfère pas trop en dire. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a rendu heureux quand je l'ai lu. Les personnages sont, pareil, très sympas, très feel good.
Mais même de ce que j'ai entendu, il y a un truc assez bienveillant de l'œuvre qui
exactement.
Émane. Même entre, parce qu'il y a une compétition un peu et pourtant, ils
ouais,
sont jamais
bah en
dans
fait,
le...
Ouais, Space Brothers, vous le sentez venir, c'est deux frères qui vont vouloir devenir astronautes. Et en fait, c'est pas du tout, en effet, une bataille entre les deux. Plus, ils se tirent l'un l'autre pour y arriver et ils sont fiers l'un de l'autre. Et c'est une très belle relation. Et toutes les relations sont très belles, très sympas, très amicales. Il n'y a pas forcément d'antagoniste, si ce n'est la difficulté de leur rêve, au final. Et en fait, bah, c'est super cool de les voir un petit peu step up comme ça dans leur vie. Tu vois des super paysages. Tantôt, tu es en Californie où t'as des, tu vois des trucs de lancement. Je crois que tu as Houston à un moment aussi. Enfin, c'est très, très sympa. Et ouais, j'adore. En vrai, j'adore. J'ai trop hâte de lire la suite. Et en fait, j'aime tellement que je m'impose un rythme pour pas trop en lire.
Ouais, je comprends.
Parce que j'ai pas envie que ça se finisse. C'est trop, je sais pas si ça, c'est trop bizarre comme.
Je connais ça sur Invincible, on en parlait tout à l'heure avec Capo. Ouais. Invincible, bah, c'est un tome qui sort tous les 3-4 mois et je me dis, il va y avoir. Enfin, c'est déjà terminé, Invincible, mais c'est les intégrales qui sortent. Et à chaque fois, je me dis, oh non, on se rapproche de la fin. C'est terrible.
Mais c'est un sentiment qui est trop bizarre, mais c'est aussi preuve que t'as pris ton pied, c'est que. En fait, je me capte parce que j'ai pas envie de finir, quoi. J'en veux encore, je veux que ça me dure dans le temps, quoi. Et voilà, je veux pas trop en dire, mais Space Brothers. Pour moi, c'est.
Ouais, mais pour moi, c'est en vrai, très ça rentre pile dans la.
Ouais, je suis dans le thème.
Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'attends. C'est vraiment une lecture qui te fait du bien, tu vois. Genre, parce que t'as des lectures qui te font du mal, mais que tu prends du plaisir, tu vois. Mais c'est vraiment, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, là, c'est vraiment juste, tu lis, t'as le smile, tu vois, t'es
exactement.
Content.
Exactement. Ouais. Ça te détend, ça fait du bien.
C'est réussi, en fait.
Bah, nickel. Bah, je suis heureux, putain.
Non. Bref, allez, on enchaîne.
Néo.
Moi, j'aurais pu vous parler d'Invincible parce que c'est typiquement ça. Hein, c'est que quand je le prends, j'y vais le matin même à l'ouverture du magasin pour prendre moi une intégrale d'Invincible que j'attends depuis 3 mois en comptant les jours, en comptant les heures. Mais j'en ai tellement parlé
pas
sur
les
ma
minutes.
Chaîne. Non, pas les minutes.
Pas les minutes. Ok. Merci de ton intervention.
Non, mais en vrai, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Je me dis, s'il y en a qui peut-être regardent la chaîne, ça peut être hyper redondant. Donc là, je vais parler d'un truc. J'en ai parlé récemment sur la chaîne, mais assez rapidement. Donc j'avais envie de revenir dessus. Et je crois que ça va être la première fois qu'on parle de BD franco-belge.
Allez.
Dans Ex Libris.
Carbone ici, ici.
Oui,
fait.
Mais c'était pas une recours.
Oui, non, c'est la première fois qu'on y a une recours dessus, je crois.
Ouais. Il me semble.
Ouais, il me semble.
Peut-être les invités, je me rappelle pas de
pour les, non, reco, mais... pour les amoureux de Pokémon.
Wow.
Parce que finalement, c'est un peu dans le thème manga, tu vois, comme quoi. Je me rapproche petit à petit. Peut-être qu'un jour, je vais conseiller un manga, on sait pas. Est sortie chez Akileos la BD Bakamon. Bakamon, c'est écrit par Juliette Fournier, et au dessin, c'est Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschars, je crois. Désolé si je bouffe le nom. Bakamon, c'est feel good parce que je me suis tapé une barre de rire dedans, en fait. En lisant ça, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Vraiment, je rigolais. Alors, c'est plus pour ceux qui ont joué au jeu que pour ceux qui ont regardé le dessin animé ou lu les mangas.
Après, je pense que quand t'as vu l'animé derrière, t'as voulu jouer au jeu.
Ouais,
je pense. Ouais. Il doit y avoir des exceptions, mais...
En tout cas, les vannes sont plus axées sur
le gameplay.
Donc, en gros, ça va nous raconter l'histoire d'un dresseur qui vit dans un monde où il y a des Bakamon, des petites créatures
wink.
Qui, voilà, vous voyez à peu près le genre, et qui va du coup à l'âge de ses 12 ans être viré de la maison. Parce que à 12 ans, okay. C'est l'âge auquel on devient dresseur, donc okay. C'est bien gentil, tu prends tes bagages et tu te casses. Et lui, il n'a pas du tout envie d'être dresseur.
Ah,
lui,
c'est
pas du tout. Il dit, mais qu'est-ce que
tu fais? Il ne veut pas devenir le meilleur dresseur.
Non,
c'était un bon protagoniste.
Il ne veut pas se battre sans répit. Il veut pas tout faire pour être vainqueur et gagner des défis. Il veut pas parcourir la terre entière.
Non, allez. Et sa mère lui dit, non, tu te casses, c'est l'âge, c'est bon. Tu pars, tu prends ton sac, tu te casses. Tu vas voir le professeur, il va te donner
un
premier bac-à-bac. Et du coup, il y a plein de vannes là-dessus. Enfin, vraiment, ça commence par comment tu t'appelles? Et genre, une vanne entraînant le fait qu'il balance une insulte, il fait « Ah d'accord, tu t'appelles machin. » Mais non, pas du tout. Donc du coup, tu t'appelles machin. Et il va être insulté pendant tout le récit. On ne connaît pas son vrai prénom, en fait. On sait juste qu'il va être appelé, je ne sais pas, bâtard ou je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est ça. Il rencontre son rival qui fait que des vannes tout le temps. Le professeur lui fait « Mais attends, t'es un garçon ou une fille ?» Il dit « Un garçon », le rival en même temps, il dit « Une fille ». Il fait « Bon, ok, t'es non-genré. » Et du coup, c'est que des vannes. Mais c'est littéralement... En fait, toutes les questions qu'on a pu se poser à un moment ou à un autre, elles sont abordées là-dedans. Par exemple, il y a un petit secret qui va être un peu le fil conducteur, c'est où sont passés les animaux, en fait, à l'époque. Et du coup, c'est une sorte de secret de polichinelle, personne n'en parle. Et lui, il va retrouver dans les dossiers du professeur une encyclopédie des animaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, on apprend que c'est une conspiration qui a mis en place ces Bakamon, qui les a créés de toutes pièces. Et voilà, il n'y a pas de Pokéball, mais à la place, ils sont dans des tubes dans lesquels ils sont mis en bouillie. Et quand tu les... Enfin, bref. C'est beaucoup trop drôle.
Ils détournent, quoi.
Exactement. Tous les Pokémon, c'est des blagues tout le temps. Vous avez petite culotte qui évolue en string, qui évolue en... c'est vraiment... Et c'est...
J'achète.
à la fois, c'est trop mignon. À la fois, c'est... Tu vois, la question se pose, par exemple, de Putain, mais j'ai pas de thune en fait. J'ai 12 ans, j'ai pas de thune. Mm. D'accord, bah, le professeur lui dit d'accord, faut juste que t'ailles fracasser des gars. Tu leur piques leur thune. Une fois que t'as détruit leurs animaux, tu leur piques leur thune. Et après, c'est bon. C'est, genre, c'est comme ça que fonctionne la vie, quoi.
Bah ouais, logique.
Et en fait, ça te fait re-questionner tes 10 ans de. Enfin, presque 20 ans de jeu gameplay. Pokémon. Et moi, j'ai passé un moment incroyable. C'est une BD qui m'a foutu un smile fou. C'est en 3 tomes. Là, le troisième tome est sorti en début d'année, peut-être mars.
C'est le dernier ou c'est encore en cours ?
Non, je crois qu'il y en a encore après.
Ok, hein, ouais, c'est.
Il me semble. Le deuxième a commencé à nous placer la Team Rocket, enfin la Team Racket.
Okay. Let's go!
Évidemment. Et du coup, ouais, voilà. Moi, c'est ma reco parce que ça se lit hyper facilement et les vannes sont à mourir de rire. C'est pas les vannes hyper faciles qu'on voit tout le temps. Ça va chercher un peu plus loin. Les combats de Pokémon, c'est hyper recherché la manière dont l'un va gagner ou l'autre, etc. Donc, ouais. Gros coup de cœur là-dessus.
Putain, bah ouais. Moi, ça me hype en tant que grand fan de la,
ah ouais, vraiment, il faut.
De la licence. Faut que j'y
aille. Et puis, gros big up à Janice
ouais.
qui avait fait le
hors-série Pokémon.
Et qui était le premier à me conseiller Bakaman à l'époque. Puis j'ai eu la chance de parler avec Akileos et avec Juliette Fournier.
Trop classe.
Et qui, du coup,
le boss.
On a pu partir sur Bakaman et c'était trop.
Trop stylé. Donc, ouais, ça, c'est des passionnés.
Ah bah, déjà, je pense, ouais, pour le coup.
Ça se sent.
Sinon, je pense que tu vas difficilement sur un truc comme ça. Enfin,
ouais, si t'aimes
non,
pas.
Non, mais ils ont poussé le truc loin. À chaque fois que t'achètes une BD, dedans, t'as une carte Bakaman. Tu peux les collectionner. T'as un test pour savoir quel Bakaman tu es à l'intérieur. Non, je sais pas. Bref, ouais, c'est très très cool.
Eh ben, trop stylé. Et ben, messieurs, merci pour ces belles recommandations. C'est mon tour de choisir la reco.
Tout à fait.
Et
j'ai peur.
Moi aussi.
Ok. Bah.
L'espace. Attention.
Non, j'aimerais.
Nightwing. Reco Nightwing.
J'aimerais qu'on parte sur un. Super héros Sidekick. En noir avec un peu de bleu.
Après, vous avez le choix, vous êtes libre.
Hein. Blue Beetle, je pensais à ça. Je vous impose une recommandation où, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui m'a aussi un petit peu inspiré cette reco, où le lore prend le pas sur l'œuvre.
Ok.
Le lore voilà. Prend le pas sur l'œuvre.
En gros, une reco où une c'est reco le lore.
Où t'as un lore de dingue, si tu veux.
Okay. En gros, il faut que ça soit l'univers de l'œuvre.
Ouais, non, mais j'ai compris. Hein. Je commence ma réflexion, en fait.
Non, mais ok, je pense que
t'as compris ou pas ? C'est l'univers.
Attends, vas-y, répète.
L'univers.
D'accord, ok, c'est bon. Je suis pas sûr d'avoir compris.
Bon, eh ben écoutez, on verra ça le mois prochain. Hein.
Il faut que ce soit écrit par une meuf qui s'appelle Laure.
Bien. voilà, donc une reco avec du lore dedans, ça fait plaisir. Ça peut être des grandes sagas, ça peut être de l'épopée, ça peut être ce que vous voulez, mais il me faut un putain de lore.
Star Wars et Seigneur des Anneaux perso.
Wow, Star Wars, en termes de lore, c'est à chier, non ? Non, c'est bon, je rigole. Je cancel.
Wow.
Je cancel.
Mais je soutiens.
Moi, je soutiens pas du tout. En plus, je suis pas d'accord avec moi-même.
Mais ouais, mais bon. Ouais.
C'est beau. On en parlera en off.
On en parlera en off.
Bref, on vous souhaite un... Pas tout
le bonheur du monde.
Si vous souhaitez un joyeux mois de mai, nous, on se retrouve en fin de mois pour le Focus Club sur...
Orange. Orange.
On a très très hâte de vous en parler. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur. J'ai du mal
à vous donner notre avis.
À nous donner votre avis sur Orange dans le Discord, dans le channel prévu à cet effet, ou alors sur la story Instagram qui sera donc sur notre compte Instagram exlibrispod. Tous les liens sont dans la description de toute façon. Vous pourrez aussi retrouver Néo sur sa chaîne si. Vous souhaitez en apprendre plus sur Invincible, vous pouvez retrouver Apo sur son compte Insta si vous aimez les feeds vides. En tout cas,
ça arrive fort.
Ça arrive fort, 2024.
De 25.
Bref, on vous dit à très très bientôt tout le monde. Ciao.
Ciao.